Bonjour et bienvenue dans l'émission Aréopage sur 91 FM Plus Montpellier. Aujourd'hui, avec Monique Serrouchaïbi et moi-même, nous allons aller à la rencontre de deux auteurs issus du Maghreb et vivant en France, avec donc Brahim Metiba et Abdelila Taye. Abdelila Taye. Ça s'est passé durant une séance au cabinet du psy, en juin, un mois de naissance. C'était une évidence. Mon absence avait trop duré. Je ne pouvais plus fuir éternellement. Il fallait revenir et affronter la situation. Ce serait pour les 80 ans de ma mère, qui coïncident avec mes 40 ans. Ma mère m'ayant eu à 40 ans, ce sera ma renaissance. Le retour aura lieu en septembre. Nourrie par toutes ces images de la mort de mon père, j'ai l'idée que la littérature pourrait être un lieu où consigner les choses autant qu'il ne soit trop tard, pour qu'on ne les oublie jamais. Je tiendrai un journal où je noterai tous les moindres détails. C'est comme ça que débute le livre de Brahim Metiba, Tu reviendras. Cet extrait donne la mesure du livre. Brahim Metiba est né donc en 1977 à Skikda en Algérie. Il est ingénieur de formation et vit à Paris depuis une quinzaine d'années. Dans Tu reviendras, l'auteur aborde le sujet de ses racines familiales et culturelles. C'est l'histoire du retour dans son pays natal. Le narrateur donc, est un Parisien quadragénaire, homosexuel, qui retourne dans son Algérie natale et qui fait un retour aux sources. Il décide, lors d'une séance chez son psy, de rentrer au pays pour revoir sa famille avec qui il est en froid depuis qu'il aura annoncé son homosexualité. Il rentre aussi pour l'amour de son pays, mais surtout pour arrêter de fuir. Il veut affronter la situation, la réalité. Il veut rétablir le contact avec les siens. Son retour se passe bien, comme si de rien n'était, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Sans éclat donc. Mais en réalité, tout a changé. Sa famille a changé. Son père est malade et même mourant. Et sa vie, il a changé. La question que nous pose la lecture de ce roman, que reste-t-il des lieux que nous avons quittés et de ceux que nous laissons derrière soi? Dans son autre livre, Ma mère et moi, qu'il a écrit il y a quelques années, il interrogeait aussi la relation entretenu avec sa mère et la difficulté qu'il avait à se dire, à s'entendre, à s'écouter et à se comprendre. Brahim Metiba nous livre cet entre-deux dans la volonté de dire les choses et la difficulté à y parvenir. Il fouille son passé pour trouver des réponses à ses questions du présent. Monique Serrouchaïbi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce livre?
Oui, je me souviens assez bien. Ma mère et moi, c'est le premier des romans. Après, il y en a eu un sur son père. Celui dont tu as parlé en premier, c'est donc le quatrième. Et contrairement à l'auteur prochain dont tu vas parler, Abdelila Taye, il a une manière d'aborder sa sexualité par petites touches. Il la suggère plus qu'il ne la révèle. Et dans le premier roman, il se sert du roman de Cohen sur sa mère pour essayer de faire comprendre par petites touches à sa mère que non, il n'épousera pas une jeune fille quand même. Elle le souhaite parce qu'il est autre. C'est un roman assez touchant. Moi, j'ai bien aimé, j'ai lu les quatre de ses romans, qui sont des quatre petits romans. Et c'est vraiment un auteur à connaître.
Avec effectivement la même question posée, le roman aussi d'Abdelila Taye, qui s'appelle donc Celui qui est digne d'être aimé, pose aussi effectivement le regard sur la sexualité vécue dans les pays du Maghreb d'une manière générale. Et ce roman-là commence par donc celui d'Abdelila Taye, Celui qui est digne d'être aimé. Donc Ahmed a 40 ans. Du vide de son existence et de regrets dans le cœur, marocain, vivant à Paris, perdu entre deux pays, il est sans repère fixe ni amour sûr. Il écrit à sa mère, morte il y a 5 ans, pour régler ses comptes, crier sa colère et son homosexualité. À Emmanuel, l'homme qu'il a aimé pour le meilleur et pour le pire. Ahmed écrit pour comprendre, se libérer, guérir ou s'arrêter. Ici. Donc Abdelila Taye est algérien. Oui, j'ai un petit peu du mal.
Non, il est marocain.
Oui, il est marocain. Oui.
Il est né à Salé.
Il est né à Salé, effectivement, au Maroc. Il a 40 ans.
Un peu plus maintenant.
Oui, 47, effectivement. Oui, oui, effectivement.
Il est 73.
Tu as raison.
Excuse-moi, je ne voulais pas te couper.
Donc, avec son livre, il nous parle de la colère qu'il a donc envers sa mère, la colère avec son premier amour, la colère avec la vie, la colère avec lui. Le livre est fait de 4 lettres, donc une qu'il adresse à sa mère, une autre à son amour perdu qui est Emmanuel, et puis deux autres lettres qui ont été écrites, l'une par son meilleur ami, son tout premier amour lorsqu'il était plus jeune, et puis une personne qu'il a rencontrée à Paris, qu'il a aimée follement. Et l'auteur explore effectivement là aussi toutes les racines de la colère, la relation à la famille, le traumatisme effectivement de son enfance et de son adolescence, la découverte de son corps, l'acceptation de soi, de ses erreurs, sa perte de repères, la perte de ses repères identitaires. Avec la rencontre avec Emmanuel, il croit trouver une belle vie en rejetant ses origines, mais au fil du temps, il étouffe et s'étouffe dans sa cage dorée, puisqu'il rencontre Emmanuel donc au Maroc, avec qui ils vont vivre une histoire et qui effectivement va le faire ramener en France. Monique, est-ce que...
Oui, non, c'est ça. Mais dans ce livre, les deux premières lettres sont les plus bouleversantes, à mon avis. La lettre à sa mère et la lettre justement à Emmanuel, qu'il a profondément aimé, qu'il a emmené en France. Mais à la fin, il se rend compte que cet Emmanuel, c'est pas l'homme généreux qui lui a payé des études, qui l'a logé, qui l'a nourri, etc. pendant des années. Non, il y a un relent de colonialisme dans le rapport qu'il a avec cet homme. Il se rend compte que finalement, c'est l'objet rapporté d'un voyage exotique. Et d'ailleurs, à la fin de cette lettre, on se rend compte que l'objet rapporté va être remplacé par un autre plus jeune. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement cru. Il ne nous épargne rien des instants avec ses amants et tout. Mais en même temps, il y a une espèce de candeur qui fait que ça n'a rien de choquant et que c'est bouleversant.
Ah oui, c'est très bouleversant. Oui, c'est assez cru. Et c'est vrai qu'il il se dégoûte un petit peu. Il a un côté où il se reproche énormément de choses, ses erreurs. Et cette relation aussi avec sa mère qui est très dure.
Complètement.
Hein, qui est très dure. Hein. Bon, après, le reste de la famille est moins évident, mais effectivement, et puis de vivre effectivement cette toxicité, son homosexualité, je veux dire.
Ça a été le premier, je crois, à avoir fait son coming out sur place au Maroc, alors que le Maroc n'est pas profondément homophile, enfin, pour l'homosexualité. Okay. Enfin, comme si on pouvait être pour ou contre.
Nous allons faire une pause musicale avec le chanteur Calogero, « J'ai le droit aussi ».
Semblant. Que dira ma mère? M'aimera-t-elle toujours autant? Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux, j'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Tant pis si ça choque, je ne veux plus avoir avoir peur. Un homme est un homme, peu importe où va son cœur. J'ai le droit aussi, le droit d'être avec lui. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer. J'ai le droit d'être
J'ai le droit aussi, et nous sommes toujours dans l'émission Aréopage sur 91 FM+, et je suis toujours en compagnie de Monique Serrault-Chaïbi.
Mais bien sûr. Bon, donc, on va aborder maintenant le sujet de l'homosexualité, puisqu'on avait choisi ces deux auteurs qui ont... Alors, ce ne sont pas des auteurs homosexuels, ce sont des auteurs qui sont homosexuels. Il ne faut pas non plus penser que... C'est une identité, l'homosexualité. C'est une des identités de
multiples.
Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, donc l'homosexualité, c'est un rejet qui souvent a pour base la religion. Et toutes les religions monothéistes ont eu une vision du couple qui était fondée dans le même but, croire et se multiplier. Le plaisir existait, mais il était secondaire. Donc l'homosexualité passe pour une violation de cette harmonie de la nature et elle présente une menace pour l'équilibre de l'humanité. Donc, elle est taboue dans bien des religions. Alors, dans les pays occidentaux, en principe, on est moins axé sur la religion. L'État est indépendant de la religion, plus ou moins. Et ce n'est donc plus le même tabou de nos jours, même si en ce moment, on constate un retour en arrière un peu inquiétant. Dans les pays du Maghreb et en Orient, il y a une forme de paradoxe. À partir de la puberté, on sépare les garçons des filles et du coup, bien souvent, il y a des relations homosexuelles dans la mesure où on ne fréquente que des gens de son propre sexe. Et puis finalement, c'est quand même quelque chose de tabou. Donc il y a quelque chose de pas très logique dans ces interdits. Dans certains pays, comme en Mauritanie, comme dans les pays du Golfe, on peut être condamné à mort pour avoir été surpris en compagnie de quelqu'un de son propre sexe. Et en Iran, Ahmadinejad, l'ayatollah, avait même déclaré une année que l'homosexualité n'existait pas dans son pays. Ce qui est curieux, c'est que quand même, c'est une sexualité qui est condamnée. Bon. Mais bon, dans l'histoire, on a toujours eu des écrivains qui parlaient de l'homosexualité. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Abu Nuwas, le poète qui vivait au 8e siècle, qui était iranien de langue arabe. Et ses textes ont été publiés sans aucun problème. Maintenant, de nos jours, il y a eu le livre « Le pain nu » de Mohamed Choukri, qui a été traduit par Tahar Benjelloun en 80, mais qui a été interdit dans son pays d'origine jusqu'en 2010, je crois. Il y a le livre de Mohamed Lefta, « Le dernier combat du capitaine Nimat ». C'est un militaire qui, à la fin de sa vie, se rend compte qu'il est amoureux de son serviteur nubien. Eh bien, son livre, il l'avait laissé et il avait demandé à ce qu'il soit publié à titre posthume, parce qu'il voulait éviter les problèmes. Donc nous, on a choisi Brahim Metiba et Abdel Ataya. On aurait pu aussi parler de Nina Bouraoui pour parler d'une homosexuelle femme, mais bon, le sujet est déjà très vaste. Alors si on parle des deux homosexualités qui ne sont pas vues de la même façon, ça va être un peu long.
Et quelle est la différence de vision justement entre les deux ?
Alors entre les deux, c'est ce que je disais dans la première partie, c'est que Abdella vit ça avec beaucoup plus de colère, beaucoup plus de ressentiment que Métiba. Peut-être que Métiba a une colère intérieure, mais dans sa littérature, on ressent moins ça. Et puis il y a ce côté cru où Abdella ne cache rien du tout de ses, non seulement de sa sexualité, mais des moments où il a des rapports avec ses amoureux, ses divers amoureux, ceux avec qui il a eu une longue histoire et les autres.
Est-ce que ça peut provenir du fait qu'ils ne sont pas issus du même milieu social ? Non ?
Je crois que Métiba est aussi d'un milieu modeste, relativement modeste.
D'accord.
Mais peut-être que sa famille était plus... Quoique non, il a caché lui aussi ses tendances amoureuses à sa famille.
Mm-hmm.
Non, peut-être que c'est simplement parce qu'ils ont deux tempéraments différents.
Absolument. Oui. Mm-hmm.
Alors, il faut savoir aussi, je disais que tout à l'heure, que l'homosexualité est mieux perçue en Occident qu'au Maghreb. Récemment, il y a eu un article d'Abdella qui précisait qu'il avait rencontré des lycéens d'un milieu favorisé et qu'il avait vécu 2 heures épouvantables où il s'était senti rejeté et où il a senti que l'ensemble de la classe était totalement homophobe. Qu'il disait que ça devenait, qu'il en avait marre, on n'entendait parler que des homosexuels, etc. Donc il a été agressé dans une classe en France et dans un milieu qui n'est pas un milieu peu instruit.
Mm-hmm.
Donc il faut se méfier de nos regards sur les autres et parfois balayer devant notre propre porte.
C'est vrai. Je vais vous lire un extrait du livre de Brahim Métiba justement sur... Sur ça, à un moment il dit « J'ai grandi avec l'idée qu'un Dieu unique a créé ce monde, qu'il l'a organisé et qu'il régit désormais nos actions. Bref, qu'une vérité existe et que tout ira pour le mieux, pour peu qu'on suive les préceptes. 2 ans après être arrivé en France, tout a basculé dans ma vie. Jusque-là, je croyais être homosexuel, comme on a une passion pour le violon, ou les timbres-poste. Ça va un moment, puis ça passe. Que je finirai un jour par entrer dans le rang. Ce sont toujours mes mots de l'époque. Et puis mon corps m'a appelé. J'ai compris que ce ne serait pas passager, que c'était là, et bien là, pour de bon. J'ai alors commencé à lire, à questionner ma vie, à chercher des réponses au monde. Puis l'islam est incompatible avec l'homosexualité et donc avec ma propre personne. Il fallait bien trouver des réponses ailleurs. J'ai lu de la philosophie. Ce fut une période compliquée. J'en garde encore les traces. On ne se détache pas d'une culture facilement. On ne se débarrasse pas d'un dogme rapidement. Mais les livres n'offraient aucune réponse. Ou plus exactement, les réponses étaient si nombreuses qu'elles s'annulaient mutuellement, ce qui me ramenait toujours au même point de départ. Ça revient à dire ce qu'on disait, Monique.
Là, tout à fait. C'est un extrait qui résume bien ce qu'on avait à... Alors, nous vous conseillons donc de lire ces deux romanciers, qui sont aussi attachants l'un que l'autre. Et Abdella Taïa, d'ailleurs, a eu le prix coup de cœur lycéen, du temps où on faisait des prix de coup de cœur lycéen. Il est venu pour présenter son premier roman... L'armée du salut, pardon. Et alors, je me souviens qu'au début de l'entretien avec les lycéens, il a entendu des colibés en arabe qui étaient un peu moqueurs sur l'homosexualité. Mais finalement, il a réussi à captiver son public parce qu'il parle beaucoup de la pauvreté qu'il a vécue. Et il se retrouvait dans un lycée ou un collège où les jeunes venaient de quartiers défavorisés. Donc, il a su leur parler de ce côté qu'ils avaient en commun. Mm-hmm. Et finalement, ça s'est fort bien passé.
D'accord. Donc je vous redonne les titres des deux livres qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Donc Brahim Métiba, Tu reviendras chez Elisade. Et puis Abdella Taïa, Celui qui est digne d'être aimé. Alors merci Monique.
Mais merci à toi Faouzia.
Voilà. Et puis au plaisir.
Et bonne lecture à tout le monde.
Et bonne lecture à tout le monde. Et puis à très bientôt pour d'autres lectures méditerranéennes.
Au revoir.
Au revoir.